Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise. Jean-François Barry. Un chroniqueur pas comme les autres.
Salut Jean-François.
Salut Philippe-Vincent.
Bon, ça coule dans les paddocks au circuit Gilles Villeneuve.
D'habitude, on entend « et ça roule oui, à Montréal ». Ça. Et ça coule à Montréal.
Les Écoute, feux sont éteints et ça coule dans les paddocks.
Je sais pas, je vais être le seul à t'en parler parce que ça fait un peu partie du sport et un peu des enquêtes là, donc dans le Journal de Montréal. J'imagine qu'aujourd'hui, ça va faire beaucoup jaser. C'est une enquête de Jean-Louis Fortin et François-David Rouleau, donc qui ont appris qu'il y a eu un rapport qui a été commandé pour savoir qu'est-ce qui se passe là sur pour les paddocks là, au Grand Prix Gilles Villeneuve. Au coût de 60 millions. On le rappelle que ça a été fait, ça, là, ces petits paddocks-là, là, c'est nouveau depuis 2019. Là. On vient d'y retaper et il y a de l'infiltration d'eau donc sur les toits, par les portes, ça rentre par les garages. Donc, évidemment, on a demandé à savoir qu'est-ce qui se passait. Ça a l'air que lors de la construction, ça avait été dénoncé, tout ça. Mais on a continué les travaux. Donc, c'est ce qu'on apprend ce matin dans le Journal de Montréal et ça va faire beaucoup, beaucoup jaser. On sait que le Grand Prix s'amène là, dans les prochaines semaines. Est-ce qu'il y a de l'infiltration d'eau là, au point d'annuler? Je crois pas. Reste que c'est pas logique d'avoir payé 60 millions pour refaire les paddocks et que ça coule après seulement 3 ans.
Ouais.
Et seulement une année d'utilisation parce qu'on rappelle qu'il y a eu 2 ans de pandémie là-dessus. Là.
Non, c'est un peu ça qui est hallucinant, là. Mais bon, quand c'est mal fait, c'est mal fait.
Mais ça veut dire que ça a été mal fait. C'est pas de l'usure. C'est pas parce qu'on a brisé quelque chose. C'est pas, ça a juste été.
Non, puis
mal
on a
fait.
Tout rechaussé aussi l'asphalte pour l'entrée au puits. Mais ça, après ça, il y avait peut-être l'asphalte à Montréal est toujours un petit peu plus compliqué.
Ouais, mais on est bon là-dedans. On va se le dire.
Mais disons que si j'étais groupe Calinette, là, je ferais une belle commande du Grand Prix cette année. Bon, changeons de sujet, revenons au hockey. Carey Price qui va être candidat pour le trophée Bill Masterton.
Oui, on en avait parlé, je pense, ensemble là, il y a quelques semaines lorsque le Canadien l'avait mis comme candidat parce que chaque équipe donne un candidat. Et après ça, ben, la Ligue en choisit 3 à travers les 32 candidats et Carey Price a été retenu pour le Bill Masterton. Le Bill Masterton, c'est le joueur ayant fait preuve d'esprit sportif, de persévérance pour son sport. Là, tu sais, quelqu'un qui a fait tous les efforts pour revenir, sa passion pour le hockey. Et ben, Carey Price, avec tout ce qu'il a traversé, autant mentalement que physiquement avec sa blessure au genou, mine de rien, il a été pendant 74 parties sur 82 sur les lignes de côté à essayer de se guérir pour revenir au jeu. Donc, c'est un des candidats finalistes au Bill Masterton. Dino Chara, pour sa passion pour le hockey, là, on sait à l'âge qu'il est rendu, les blessures, le rôle qu'on lui a donné cette année, un tout petit rôle, mais il voulait continuer à jouer. Et un autre candidat est Kevin Hayes des Flyers de Philadelphie, lui aussi avec de vilaines blessures, est revenu au jeu. Le Canadien qui l'a déjà gagné ce trophée-là par le passé, souvenons-nous de Max Pacioretty, qu'il avait gagné suite justement à ses réhabilitations avec un coup là, de Dino Chara. Tu te souviens de ça, là, sur le bord du banc du Canadien? Avec les vertèbres fracturées.
Ah, oui.
Sakou Koivu, lors de son retour après son cancer, l'a gagné aussi. Serge Savard et Claude Provost. Donc, Carey qui pourrait devenir le 5e joueur du Canadien dans l'histoire.
Bon, Patrice Bergeron, lui qui ne sera pas joueur du Canadien, même si certains l'espéraient, le souhaitaient, le voyaient dans leur café.
Ouais, mais en fait, c'est à cause de ses liens avec Kent Hughes. Lui et son agent, c'était Kent Hughes depuis toujours. Ils ont une belle relation ensemble. On sait que le contrat de Bergeron est à échéance, donc devient joueur autonome. Ça aurait été un bon vétéran là, tu sais, pour mettre derrière Nick Suzuki, pour lui apprendre les rudiments du hockey. Ça aurait été génial pour le Canadien, mais il a pas laissé traîner ça, Patrice Bergeron, comme on le connaît, en bon leader. Un homme intègre, il a dit non aux Canadiens, mais non de toute façon à n'importe quelle équipe de la Ligue nationale de hockey. il a toujours été un Bruins et il va mourir en Bruins. C'est ça qu'on, c'est ce qu'on a compris hier dans son discours, dans son point de presse, parce que les Bruins étant éliminés, on est allé vider les casiers et on a pris la parole. Donc, c'est soit la retraite pour Patrice Bergeron, ça donne un peu de temps de réflexion. Il a 36 ans, et dans la Ligue depuis qu'il a 18 ans. Donc, depuis 18 ans, il commence à être fatigué. Encore capable de jouer au hockey, il a eu une très bonne saison. D'ailleurs, Brad Marchand est allé d'un vibrant plaidoyer pour qu'il soit de retour. Lui, c'est son joueur de centre puis il veut pas le perdre. Mais ça va être un Bruins ou rien du tout. C'est toute une carrière. Et tu sais, on parlait de Shane Wright, puis je te disais, il faut regarder des fois le caractère, il faut regarder la personnalité. Là, ben, mais lui, c'est un vrai Patrice Bergeron. Puis c'est ça qu'on veut aller chercher. Tu sais, au-delà du talent, des fois, des points, puis tout ça, là, quand tu es un vrai, ça vaut de l'or aussi.
Hier, je t'ai demandé tes prédictions pour la deuxième ronde des séries. Ce matin, dans le Journal de Montréal, tous les experts hockey en font. Alors, à ton tour maintenant. Commençons avec le Lightning contre les Panthers.
Tu sais quoi, Philippe Vincent? C'est tellement serré cette année dans la Ligue nationale et le fait qu'il n'y ait pas eu de surprise. Tu sais, il n'y a pas l'équipe 8 qui est rentrée en série, là, qui a battu l'équipe 1. Fait que il reste que des bonnes équipes. Quelqu'un aurait pris exactement l'inverse de moi, puis je pourrais même pas faire, ben voyons, complètement fou. C'est tellement ça va être serré. Alors, Tampa Panthers, l'année passée, se sont affrontés ces deux équipes-là. C'est Tampa Bay qui l'a emporté en 6 rencontres. Mais je pense que ça va être l'inverse cette année. Les Panthers vont l'emporter en 6. C'est la bataille de la Floride. J'ai pas aimé le Lightning en première ronde. Ils ont trimé dur contre les Maple Leafs de Toronto, même que de l'avis de plusieurs, les Leafs auraient dû l'emporter. C'est eux qui ont dominé la série. Là, blessure à Brandon Point, qui sera probablement, c'est leur premier joueur de centre, sera probablement pas là lors du premier match. Alors, je pense que malheureusement, les champions de la Coupe cette année ne vont pas répéter pour une troisième année. Panthers en 6.
Bon, Caroline, New York.
Bon, la logique voudrait que les Hurricanes l'emportent, mais moi je pense que les Rangers vont se faufiler. Les Rangers, pardon, excuse-moi.
J'ai juste dit ok.
Ouais, mais il y a toujours une petite surprise, puis je pense que c'est ma petite surprise, les Rangers. C'est une équipe bien bâtie, le gardien a eu de la misère, Shesterkin, au début de la série contre les Pingouins, mais là, il s'est remis à gauler comme en saison, là. C'est probablement lui qui va gagner le Vezina. Et tu vois, les Hurricanes, eux autres, ont des problèmes devant le filet avec leurs blessures, là, au gardien numéro 1 et 2, et je pense que ça va leur faire mal à long terme. Ils ont eu beaucoup de misère à passer les Bruins, et je pense pas que les Rangers sont moins forts que les Bruins, alors je pense que les Rangers vont surprendre les Hurricanes.
Les Flames et les Oilers.
Ça, pour moi, c'est facile. C'est les Flames en 5.
Ah ouais?
Beaucoup plus complet. Là. Tu sais, les Oilers ont eu la misère contre les Kings, une équipe en reconstruction. Les Flames, là, c'est 3 trios, 6 bons défenseurs, un bon gardien de but. Ce qu'on n'a pas du côté des Oilers, on le sait, ça tient sur 3 joueurs. Un gardien de but qui a 40 ans, Mike Smith. Je pense que les Flames vont ne faire qu'une bouchée. Mais cela dit, ça va être la série la plus excitante avec la bataille de l'Alberta. Là, j'ai vu des images du passé, là, tu sais, des années 80, quand ça se tapait sa margoulette. Et on n'a pas vécu ça depuis longtemps. Pour vrai, il va se passer de quoi là? En bleu du côté d'Edmonton, en rouge du côté de Calgary. J'espère que ça va s'étirer et qu'on va avoir une bonne série, mais je pense que les Flames sont trop forts.
Bon, puis l'Avalanche, c'est le Blues.
Ouais, ben l'Avalanche, la première équipe de la Ligue nationale de hockey cette année après les Panthers. Donc dans l'Ouest, c'est ce que je voulais dire. Je peux pas croire comment les Blues peuvent passer à travers, mais c'est une équipe bien bâtie, les Blues, qui ont gagné la Coupe cette année il y a pas si longtemps. Il y a plusieurs joueurs qui sont encore là-bas et je pense qu'ils vont donner ça dur à l'Avalanche. Donc je mets l'Avalanche, mais en 7, ils vont pousser ça à la limite, mais l'Avalanche va passer cette année.
Jean-François, on s'en reparlera dans quelques semaines, voir si tout ça s'est réalisé.
Hein, pour
on
me le remettre sur le nez.
Ouais, c'est enregistré. Ouais, c'est enregistré. C'est bon. Salut, là.
Salut.